Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole, votre émission. Pour participer, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui, dans JDA, l'Éthiopie, ce géant de la Corne de l'Afrique, 2 mois après l'élection d'un nouveau Premier ministre, le pays a entrepris une série de réformes politiques et économiques. Addis Abeba a également annoncé la fin de son conflit frontalier avec l'Érythrée, 18 ans après la signature de l'accord de paix. Alors, que pensez-vous de ces réformes? Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, a autrefois connu pour ses épisodes de famine, l'Éthiopie est-elle en passe de devenir la locomotive de la Corne de l'Afrique? Nous en parlerons avec Mohamed Kanami. Il est membre de l'amicale panafricaine. Rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler de l'Éthiopie, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour, c'est Dominique en région parisienne. Je m'appelle Dominique Chimanga, je suis de la République démocratique du Congo. Au fait, je voulais intervenir à l'émission sur l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui s'acharnent contre l'acquittement de Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été acquitté par une justice internationale. Nous, au Congo, nous avons toujours dit que Jean-Pierre Bemba a fait l'objet d'un complot politique, donc son dossier était vide, et que tout ce qui a été commis en République centrafricaine, bien sûr que c'était ses troupes qui l'avaient commis, mais nous estimons que dès lors que la personne est déjà acquittée par la justice internationale, la seule voie des recours, c'est saisir aussi des cours et tribunaux. Pour son cas, évidemment, il fallait saisir la cour internationale, mais la difficulté est que la décision telle qu'elle est rendue, il ne peut plus y avoir des recours. Donc Jean-Pierre Bemba doit agir de sa liberté. Si d'ici là il est libéré, il doit agir de sa liberté parce que déjà avoir purgé 10 ans, c'est déjà beaucoup. Là, il est libre, il doit être libre, je veux dire, il est acquitté. Espérons qu'il sera libre, on pourra le libérer totalement.
Oui, monsieur Kabila, tu exagères, c'est trop, Kabila. Comment tu peux te permettre d'assassiner les Congolais comme ça, Kabila? Nous, les Congolais, nous ne voulons plus de toi. Tu as assassiné le jeune qui était membre de la Lucha, monsieur Kabila. Vraiment, tout ce que tu es en train de faire, n'oublie pas, nous sommes au courant que c'est toi, monsieur Kabila. Il n'y a pas d'autre personne qui peut faire de tels actes. Tu es responsable de la mort du jeune combattant de la Lucha. Merci. Passez ce message à la radio.
Oui, bonjour Madame Hartmann. Bonjour auditeur d'Africa numéro 1. J'avais promis une suite dans les adresses à Manuel Valls, mais le répondeur était chargé un moment. Il y a 2 semaines, Manuel Valls critiquait vertement la politique d'accueil de Madame Merkel. Mais ce matin, on peut dire que c'est un grand coup de poing dans la figure de Manuel Valls. Oui, non seulement le premier ministre de droite d'Espagne a perdu le pouvoir, mais le jeune premier ministre socialiste qui vient de prendre le pouvoir fait briller le soleil sur les Pyrénées. Il accueille le bateau des migrants que l'Italie et l'autre pays, j'oublie le nom, ont refusé d'accueillir. C'est le soleil sur les Pyrénées et coup de poing dans la figure de Manuel Valls. Bonne journée à tous et à toutes.
Oui, bonjour. Alors, bonjour Stéphanie. Alors, je voudrais laisser un message vraiment spécialement. Permettez-moi, c'est pour monsieur professeur Okbara Dongo de Mali. Vraiment, j'ai félicité ce monsieur et je m'incline devant sa mémoire. Vraiment, ce monsieur, il a beaucoup fait pour le Mali et pour l'Afrique. Parce que ce monsieur, il pouvait vraiment s'enrichir en partant en étranger, mais monsieur, il a décidé de rester au Mali. Alors qu'il sait très bien que le Mali n'a pas les moyens vraiment de tout donner. Mais ce monsieur, il a tout fait pour développer de bientôt un vaccin pour les paludisme. Vraiment, je félicite ce monsieur. Je m'incline devant son dépouille. Vraiment, que j'espère que le Mali fera quelque chose, au moins son nom donné à quelque chose au Mali. Quoi. Vraiment, ce monsieur, il nous a fait vraiment la fierté du Mali, même l'Afrique tout entière. Merci les auditeurs, merci Africaine Morée.
Idéa et Madame Atman, bonjour. Merci encore Madame Atman pour tout ce que vous faites. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est pour une anomalie qui passe au niveau de ma famille. J'ai un problème, ma mère, on a refusé de lui renouveler les titres de séjour alors qu'elle est parent français. Elle est ici en France depuis 2010. Je ne comprends pas cette appréciation et ce fonctionnement de la préfecture. Je ne comprends pas du tout. Ma mère est venue avec un visa en bon et due forme, et les parents français avaient les cartes de séjour. Maintenant, on ne veut plus le renouveler. Je dénonce cet état de fait avec beaucoup d'amertume. Je ne comprends pas que dans ces pays, pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut absolument passer par les médias. Eh bien, comme c'est la seule solution, je serai obligé de passer par là. Dieudonné Kasongo, je suis vraiment très, très en colère et très attristé par cette façon de faire les choses. À très bientôt. Et Dieu bénisse tout le monde. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci encore. Ciao.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que devient Toundé Fatoumé de Africa numéro 1. Là, ça fait vraiment un bon bout de temps. On ne l'a pas entendu. Ce grand reporter nigérian. Et j'aimerais bien que l'on me dise qu'est-ce qu'il devient, s'il est toujours en vie ou s'il est plus, s'il n'est plus sur Africa numéro 1. Voilà, bonne journée. Ciao.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, j'avais déjà eu cette question, c'est pas très français, mais bon, sur Toundé Fatoundé, ancien correspondant d'Africa numéro 1. Du côté de Lagos, je pense, au Nigeria. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est devenu Toundé Fatoundé. Cependant, je sais qu'il y a un professeur voilà, qui s'appelle Toundé Fatoundé à Lagos. Donc, j'imagine que c'est lui. Vous tapez son nom sur Google, ça marche toujours. Avant de parler de l'Éthiopie, séance de rattrapage de vos commentaires hein, laissés sur notre page Facebook avec notre stagiaire Tess Volé. Bonjour Tess.
Bonjour Stéphanie.
On va revenir hein, sur le sujet d'hier, hein, la libération de Jean-Pierre Bemba et sur les commentaires des auditeurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, t'écoute.
Nous commençons par un commentaire de Yaya Fongbe qui nous dit « Je pense que la communauté internationale n'a plus personne pour remplacer Kabila, donc il donne une porte de sortie à Bemba pour qu'il occupe le prochain poste de président. C'est aussi simple que cela, nous dit-il. » Julien, lui, nous dit que la belle machine qu'est la Cour pénale internationale prend une tournure politique car elle souhaite politiser tous les faits. Le commentaire suivant a été posté par Maurice Djomtou, qui se pose d'abord une question. Comment garder quelqu'un en prison pendant près de 10 ans et parler d'erreur ? La CPI est une cour de blagueurs et c'est clair que les Occidentaux ne veulent plus de Kabila. Bemba est le plus populaire de tous. Maintenant, il faut donc changer et mettre une autre marionnette qui a assez d'énergie pour vendre son pays. Avec Bemba, c'est la panique totale dans le camp Kabila et parmi le mouvement de libération du Congo. Et le dernier commentaire nous vient de Hosanna, qui nous dit que si la justice estime qu'il n'y a pas de raison de maintenir la condamnation de Bemba, alors elle respecte leur décision.
C'est très clair. Merci Tess
Merci à toi.
De nous avoir lu ces messages. On vous retrouvera hein, demain pour peut-être les messages sur l'Éthiopie. Tout de suite, le sujet du jour. Oui, non, pas de jingle, c'est moi qui lance comme ça. Alors aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons de l'Éthiopie. Peut-on parler du miracle éthiopien ? En 2017, la Banque mondiale a estimé que l'Éthiopie était le pays où la croissance était la plus rapide au monde. Autrefois, la une de l'actualité pour ces épisodes de famine, le pays attire aujourd'hui des investisseurs au point que les entreprises chinoises s'y installent massivement. Sur le plan politique, hein, le Parlement a levé récemment l'état d'urgence mis en place après un mouvement de contestation. Alors, peut-on parler de miracle éthiopien ? Pardon, pour répondre à vos questions, nous recevons tout de suite Mohamed Kadami, membre de l'amicale panafricaine et fin connaisseur de cette région du continent africain. Mohamed Kadami, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, hein, Mohamed Kadami. Alors, première question, hein. Levée de l'état d'urgence, libération des prisonniers politiques, main tendue hein, aux voisins érythréens, hein, je le disais. Depuis quelques jours, hein, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed multiplie les réformes. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur ces annonces ? Peut-on parler de révolution ?
En tout cas, l'histoire est en train de s'accélérer en Éthiopie. Il y a encore 2 mois, il y avait un état d'urgence dans ce pays. Il y avait des milliers de prisonniers et on était au bord de l'implosion. Franchement, tout le monde s'est demandé si ces événements, c'est-à-dire cette intifada à l'Éthiopie, où pendant 4 ans, des jeunes ont contesté le régime, ont demandé un peu plus de liberté, ont lutté contre la répression, contre le chômage de masse des jeunes, et le gouvernement, le régime en tout cas, a répondu par une répression à bras raccourcis, en faisant des milliers de prisonniers, en faisant des centaines de tués. Et donc, c'est ce mouvement qui a finalement eu, en tout cas, en partie gain de cause, lorsqu'il y a eu ce changement à la tête de l'État, lorsqu'il y a eu la nomination d'un Premier ministre d'origine Oromo, quelqu'un qui est quand même du sérail de l'EPRDF, c'est-à-dire le parti, la coalition au pouvoir en Éthiopie, et qui a à peine 41 ans, 42 ans, et qui aujourd'hui, par des mesures très, très, très importantes, a quand même est en train de bouleverser un peu ce qui s'est passé en Éthiopie. Déjà, il y a un apaisement, il y a, comment dirais-je, il a dit, son projet le plus important, c'est la réconciliation. Et le fait déjà d'avoir tendu la main à tous ces gens qui étaient prisonniers, et même parmi les prisonniers politiques les plus importants, et dont Andelge Tshao Tsige, qui est un des dirigeants de l'organisation d'opposition qui s'appelle Gimbal 7, qui a été arrêté au Yémen et qui a été extradé en Éthiopie. Et donc, non seulement il a libéré cet opposant, mais le soir, il a quand même dîné avec lui. C'est pour montrer un peu, faire des signes, à donner des signaux d'apaisement. Et déjà, l'atmosphère est très calme. C'est vrai que l'atmosphère s'est apaisée depuis des mois. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Cela ne veut pas dire quelle est sa marge de manœuvre par rapport au parti réel qui dirigeait ce pays, c'est-à-dire le TPLF, le Front Populaire de Libération du Tigré.
Oui,
Et
qui avait pris le pouvoir en 91, justement.
En 91, par les armes, bien sûr, et qui a quand même assuré sa domination depuis 91. Et il est vrai que les premières mesures nous incitent à dire qu'il est en train de se libérer de ses contraintes, par exemple en changeant la direction de l'armée, en changeant le chef d'état-major, en changeant le chef de la sécurité nationale et en changeant le ministre de la Défense. En tout cas, il est en train de bouleverser le cours normal qui avait cours depuis 27 ans.
On entend bien, hein, Mohamed Kadhami, hein, qu'effectivement, ce sont ces manifestations débutées en 2015 qui, finalement, en tout cas, c'est une des pistes que vous proposez d'analyse, qui ont poussé le gouvernement à s'ouvrir. On rappelle, donc, en 2015-2016, le pays a été le théâtre d'importantes manifestations anti-gouvernementales. Vous avez parlé, effectivement, des fortes tensions ethniques. La répression a fait, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, liée au gouvernement, 940 morts. On va rester à l'écoute, Mohamed Kadhami. On va tout de suite écouter les auditeurs. On va se rendre du côté d'Abidjan, écouter Yaya Fongbe. Yaya, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, Yaya. Alors, vu d'Abidjan, bonjour. Quel regard portez-vous sur ce géant qu'est l'Éthiopie?
Je dis déjà, je dois d'abord saluer d'abord les gestes. Et maintenant, souhaiter que tous les autres pays vont dans le même sens pour qu'on puisse avoir au moins un développement concret et puis pour que la population puisse en bénéficier. Parce que quand il n'y a plus de conflit entre les États, c'est la population qui doit en bénéficier. Donc, on ne fait que saluer les gestes que l'Éthiopie vient de prendre. Maintenant, ce qu'on peut demander à l'Éthiopie, il faut que les gestes voient que ce soit des écrits, il faut que ce soit maintenant des ordres concrets. Pour voir la réalité de ce qu'ils ont dit, ce soit fait sur le terrain. À part ça, on essaie de saluer les gestes, donc je leur dis vraiment du courage, et pour que tous les autres aussi les aiment.
Merci Yaya. Yaya qui salue hein, ces demandes, ces gestes d'ouverture et qui en appelle finalement à ce que ce soit concret. On reviendra tout à l'heure rapidement, hein, mais le gouvernement éthiopien a aussi décidé hein, d'ouvrir son économie largement hein, aux investisseurs privés. On va se rendre du côté de Montréal. Écoutez, Abdelwassi. Abdelwassi, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de me donner la parole.
Merci à vous, Abdel, de votre fidélité.
Parfait. Écoute, je veux d'abord saluer la fierté de ce pays qui n'a pas été colonisé et qui fait des pieds et des mains pour aller de l'avant. J'en veux pour preuve que sa compagnie aérienne, qu'elle a depuis des années,
Ethiopian Airlines.
Une prospérité. Ethiopian Airlines, qui garde toujours une prospérité et ça fait une fierté nationale. Et je crois que je n'ai pas encore enregistré un accident d'un avion d'aéroport, ou bien une seule fois qu'on a vu ça. Mais c'est une fierté. Cependant, pour avoir déjà été là-bas, je sais qu'il y a aussi une grande pauvreté qui côtoie cette richesse-là qu'on entend de cette révolution que nous voyons. Parce qu'à un pas de l'aéroport qui est posé comme une boule de diamant qui brille la nuit, non loin de là, vous allez voir des mendiants sous les ponts qui vraiment n'offrent pas une belle image. Et ça aussi, il faut ajouter qu'il y a une grande insécurité ici qui côtoie le pays. Maintenant, si les faits politiques s'en ajoutent, je crois que les sociétés étant loin de beaucoup, on n'a vraiment pas la lettre de la manifestation démocratique vraiment de ce pays-là. Et, mais on est fiers, il y a beaucoup de ceux qui se font là-bas. On a vu qu'ils ont inauguré le métro. Et qui, vous savez, quand les investisseurs viennent quelque part, c'est normal que ça pousse. Nous souhaitons que ce pays prenne le pas, l'exemple de l'Éthiopie et d'avancer. Et que l'Éthiopie aussi fasse davantage pour mettre davantage cette population-là, qui pendant longtemps, on a vu dans beaucoup de pays africains, des Éthiopiens qui étaient des mendiants un peu partout, mais il n'y en a plus. C'est sûr qu'il n'y en a plus ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent aussi. C'est comme le Ghana aussi, à un moment donné.
Et pour vous, ça fait partie hein, des locomotives africaines, Abdelwassi, l'Éthiopie désormais?
Mais oui, ça fait bien partie. Il faut prendre ce qui est positif là-bas, ça fait beaucoup de choses qu'on peut prendre comme locomotive.
Alors sinon, Abdel, je suis désolé, hein, j'ai été vérifié, il y a une fiche hein, Wikipédia sur les accidents et les incidents hein, d'Ethiopian Airlines. Il y en a eu quelques-uns hein, quand même, hein, dont les derniers en 2010 et 2015. Il y a un crash en 2010 apparemment.
Mais par contre, imaginez un Africain qui est mort de sa belle mort comparativement à un seul pays, Ethiopian Airlines, qui a pu garder une compagnie jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut saluer ça là. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Merci Abdelwassi de nous avoir appelé et surtout d'avoir précisé. Abdelwassi nous disait finalement c'est un pays, on salue la vitesse de la croissance économique, mais il reste encore de fortes zones de pauvreté. Je reviens vers vous, Mohamed Kadami. Yaya Fongbe hein, parlait de la région un peu à Côte de l'Afrique. C'est vrai hein, que le pays, l'Éthiopie, reste entouré de pays autoritaires hein, et même plutôt pauvres. Est-ce que cette ouverture de l'Éthiopie peut avoir une influence sur le reste de la région et notamment, puisque vous êtes concerné, Djibouti?
Oui, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en Éthiopie ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur toute la région de la Corne d'Afrique, en Somalie, en Érythrée, à Djibouti. Et pour la simple raison, parce que c'est quand même, c'est un pays qui est à la frontière avec le Soudan, avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie. Et donc, elle peut pas ne pas avoir des influences. Et je crois que ça a toujours été, ce qui se passe en Éthiopie a toujours eu un impact, soit positif, soit négatif sur le reste de la région. Donc, par rapport, par exemple, à ces miracles, je crois qu'il faut vraiment prendre des pincettes parce que c'est vrai qu'il y avait, c'est un pays qui sortait vraiment d'un sous-développement très, très, très marqué. Mais en même temps, lorsqu'on voit effectivement cette inégalité de développement dans les régions, cette pauvreté lancinante. Et je crois qu'il y a une question que le Premier ministre Ahmed Abiy n'a pas encore, dont il n'a pas encore parlé, c'est la question des terres, la question de l'accaparement des terres. Alors que cet accaparement des terres à des investisseurs étrangers a donné lieu à des exodes des éleveurs ou des paysans, parfois qui qui grossissent le rang des gens qui partent vers soit l'Arabie, soit l'Europe. Mm. Et donc ça c'est une question fondamentale qui touche le quotidien des populations. Et c'est vrai qu'il y a une ouverture, une annonce en tout cas d'ouverture, par rapport à la fin des monopoles des entreprises publiques. Je pense que ça, c'est une signe. C'est donné, par exemple, au FMI, ou en tout cas Banque mondiale, ou en tout cas à l'extérieur, et pour le moment, et qui sera bien sûr minoritaire, mais quand même qui est quand même une annonce importante par rapport à la situation qui prévalait dans ces pays-là. Donc, pour revenir un peu aux influences, je pense que d'ores et déjà, ça suscite un espoir parmi les populations de la Corne d'Afrique, ça c'est clair. Et en même temps, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui inquiète profondément les dirigeants de ces régions-là, et particulièrement de celui de Djibouti, qui est complètement désorienté actuellement par les tournures que prennent les événements en Éthiopie, parce qu'en Éthiopie, aujourd'hui, les gens peuvent manifester, demain, il y aura des élections libres et transparentes, et ça... Ça rend vraiment, archaïque en tout cas certaines régions et en tout cas particulièrement la République de Djibouti qui dépend complètement pour son électricité,
oui.
Pour son eau, pour son eau, pour l'électricité, pour ses fruits et légumes et donc. Aujourd'hui, si, par exemple, il y a un changement profond dans ce pays-là, ça ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur Djibouti.
Et d'ailleurs, l'Éthiopie a les moyens de faire pression sur Djibouti en disant peut-être au régime d'Ismaël Omar Guelleh, voilà, faites aussi ça, signez des accords de paix. J'ai vu qu'il y a une information qui circulait dans une lettre confidentielle où l'Éthiopie avait envoyé des émissaires pour demander à Ismaël Omar Guelleh de faire la paix avec les Afars, je pense, ou je crois que c'était ça, Mohamed Kadhami. Avec le fruit aussi, oui, voilà.
Oui, absolument. Je pense que là, depuis quelques temps, l'Éthiopie avait demandé à IOG, à l'époque de Meles Zenawi, de construire un port à Tadjoura et qu'il y ait une route qui va de Tadjoura jusqu'en Éthiopie. Et depuis 9 ans, le gouvernement de Djibouti a vraiment freiné les quatre fers. Il a empêché par tous les moyens que cette route-là puisse avoir... puisse se terminer. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Éthiopiens ont dit quand même, et souvent, le gouvernement de Djibouti invoque la question de l'insécurité et de la présence de fruits dans le nord du pays. Mmh. Et donc, les Éthiopiens leur ont dit, mais faites la paix avec ces mouvements, et puis, s'il faut, nous, on peut aider à la conclusion de la paix. Mais, connaissant Ismaël Omar Guelleh, il est passé par 2 accords qu'il n'a jamais appliqués, donc il est incapable de faire la paix. Et donc, c'est pourquoi ça l'inquiète un peu. C'est-à-dire que cette région du Nord, qui, par exemple, depuis quand même 40 ans, est sous blocus et aucun développement ne peut se faire, ou par exemple, une raffinerie de pétrole Koweït qui voulait s'installer là-bas a été refusée. Donc, c'est la région pour laquelle les Éthiopiens sont conscients que si cette région n'a pas de paix, parce que c'est aussi ces gens-là aussi, c'est-à-dire cette population se trouve aussi au Babel-Mandeb, et le Babel-Mandeb aujourd'hui est devenu le site stratégique le plus important de Djibouti et même de la Corne d'Afrique, et c'est la raison pour laquelle peut-être et les Éthiopiens et les Érythréens et même les Américains, paraît-il, ils disent qu'il faut faire la paix, en tout cas de toute façon qu'il faut qu'il y ait un changement à Djibouti, sinon ça ne peut pas marcher, cette marginalisation des populations entières et en tout cas cette fermeture où aucune élection ne peut changer la situation à Djibouti. Et alors, à l'heure où on parle de changement en Éthiopie, je pense que Djibouti est en train de frissonner.
On entend bien aussi la Corne de l'Afrique, cette zone est éminemment stratégique. Il nous reste quelques minutes, Mohamed Kadhami, le temps peut-être d'aller retrouver Ozana au Tchad. Il s'était inscrit en nous laissant un petit message sur Facebook. Ozana, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Ozana. L'Éthiopie, c'est pas très loin du Tchad. Quel regard portez-vous sur ce géant de la Corne de l'Afrique?
Moi, je pense que l'Éthiopie, comme tout autre pays en Afrique, a vraiment le droit de se développer.
Oh, heureusement. Tout le monde a le droit de se développer, Ozana.
Voilà, tout le monde a le droit de se développer. Et comme vous savez, ce qui retarde aujourd'hui l'Afrique a beaucoup de potentialités. Et l'Afrique, d'une manière globale, c'est vraiment l'inégalité sociale, le manque de distribution et puis la malgouvernance qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment avoir un vrai développement, un développement vraiment durable venir en Afrique. Donc, bon, comme il y a un nouveau premier ministre qui est nommé, je pense que s'il a des bons plans d'action, s'il a vraiment un plan qui peut aider l'Éthiopie à avoir son développement, je pense qu'il suffit juste d'avoir des stratégies, il suffit juste d'élaborer des bons plans de développement. Et puis, bon, il n'y a rien qui peut vraiment empêcher ce développement. Donc, il faut aussi mettre tout le monde dans le travail. Il faut inclure tout le monde, la jeunesse, les acteurs politiques, les femmes, les jeunes, tout ça. Et quand tout le monde met la main dans la pâte, je pense qu'il n'y a rien qui peut empêcher ces pays de voir un développement durable venir. Donc, cela nécessite un travail, ça nécessite la cohésion, la paix, puis tout ça.
On a surtout compris, Ozana, je vous remercie. Il reste à peine une minute, mais on comprend surtout dans vos propos que surtout, il faut être vigilant, la répartition des richesses. Vous avez évoqué ça, l'inégalité sociale. On verra bien que ces questions de libéralisme, ce que ça donnera. Mohamed, je vous pose une question rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse rapide, mais il y a Ousmane qui se demande la question des Juifs noirs d'Éthiopie qui s'étaient réfugiés en Israël. Est-ce qu'ils vont retourner en Éthiopie? Est-ce qu'on a des informations, Mohamed Kadhami, là-dessus sur le retour?
Non, on n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, actuellement, il n'y a pratiquement pas beaucoup de Juifs en Éthiopie, donc ils sont tous partis là-bas. Même là-bas, en Israël, bien sûr, il y a un problème de discrimination et tout ça, mais en tout cas, je pense qu'en ce moment-là, je pense qu'ils sont encore en Israël, et peut-être si le pays se développe, peut-être ils vont entrer les ponts, ils peuvent revenir et investir dans leur pays d'origine. Mais pour le moment, je pense qu'ils préfèrent, rester en Israël parce que la situation ne s'est pas encore améliorée. C'est-à-dire, on est en train de sortir d'un petit peu quand même d'une crise très, très, qui a failli vraiment emporter l'Éthiopie. Et on n'est pas encore au bout des épreuves parce que, c'est-à-dire il y a un pesanteur important parce que le parti TPLF, l'armée, la sécurité est encore tenue par les Tigréens, et aujourd'hui c'est les Oromos et les Amars qui sont un peu les deux ethnies majoritaires qui essayent de secouer les coquetiers et surtout les jeunes. En tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été formidable parce que
on comprend bien. Mohamed, on arrive à la fin de cette émission, je vous remercie, mais on a bien compris qu'effectivement qu'on vous méfiez de l'expression miracle éthiopien et que les défis étaient encore nombreux à relever en Éthiopie. Merci beaucoup, Mohamed Kadhami, d'avoir été notre invité. Merci à vous, Mohamed. Je rappelle, votre association, vous êtes membre de la Mical panafricaine. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, prenez soin de vous. À demain.